et les yogas. Le premier des facteurs qui peut nous incliner à ça, c'est d'abord l'ignorance de ce qu'est la vraie liberté et l'ignorance de l'importance qu'il y a à la protéger et à la conserver. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, en entendant cet enseignement, réagissent peut-être pour la première fois de leur vie et s'aperçoivent que c'était un don de Dieu qui était en train de disparaître et qu'ils acceptaient de voir disparaître avec souvent des motivations rationnelles ou même dites vertueuses. Ce qui favorise également cette prise en otage, ce sont nos défauts non corrigés. On entend parfois des gens dire, ben j'ai tel défaut, ben ça c'est, prenez-le pour acquis, ou je suis trop âgé, ou ça fait trop longtemps, je ne peux pas changer. C'est vrai qu'on ne peut pas changer nos défauts par nous-mêmes, mais Dieu peut les changer tous. Parce qu'un défaut, c'est une absence de qualité. Et Dieu nous a donné une qualité, et par conséquent, si on lui dit, Seigneur, développe la qualité, telle qualité au point que mon défaut disparaisse, donc qu'il n'y ait plus d'absence de qualité, il va le faire. Vous savez, c'est faux de dire qu'on a un caractère et un tempérament et ça ne change pas. Non. Mais lui peut le faire mieux fonctionner, notre caractère et notre tempérament. Lui qui nous donne des qualités, des aptitudes, qui nous donne des vertus chrétiennes correspondantes pour développer tout ça, peut augmenter son dosage, si on le demande. Alors, il n'y a pas un être humain qui peut se réfugier derrière le fait que ses défauts non corrigés, c'est à prendre et à endurer pour les autres. Les blessures non nettoyées, c'est la même chose. Ça permet à Judoka le fourbe de venir à un moment donné tout à fait nous ficeler avec toutes sortes de raisons. La faiblesse de notre système immunitaire spirituel. On sait comment certaines maladies modernes se développent par la faiblesse du système immunitaire physique. Le Seigneur me mettait dans le cœur que le même phénomène se produit spirituellement. On a des sidéens ou des sidatiques spirituels, c'est-à-dire des gens dont le système immunitaire s'est tellement affaibli qu'ils ne voient pas le mal où il est, ne sentent pas le mal et ne peuvent pas se défendre contre le mal. Et c'est le problème de beaucoup de gens dans notre société moderne, depuis qu'on a décidé de ne plus dire ce qui est bien, ce qui est mal. Mais les gens ne réalisent pas. Et beaucoup de citoyens aujourd'hui sont, même je dirais, dans un système immunitaire inversé. Et ça, ça a été la grande ruse de Judoka. Ils n'ont pas de défense contre le mal, puis ils ont automatiquement une allergie face au bien. Ils appréhendent le bien. Ils ont peur de la lumière. Ils ont peur de tout ce qui leur apporte le réconfort de Dieu. Tout de suite, là, ils réagissent à ça. Puis le bien, le mal, lui, les envahit subtilement et facilement. Les mauvais ou faux plis qu'on a pris dans sa vie par manque de formation ou par mauvaise éducation. Et je donne, par exemple, des thèmes qui ont fait la manchette de nos vies pendant des générations. Le thème du don de soi sans réserve. Il faut se donner là, sans réserve. L'oubli de soi, l'immolation pour les autres, pour ses frères, ses sœurs, tout ça. Cette espèce de don total, il faut se donner là, jusqu'au bout. C'était beau, c'était bien. Mais vous comprenez que Judoka est entré dans la dynamique de ses belles intentions et en a électrocuté plus qu'un. La charité à tout prix. Être charitable, c'était être sourd, muet, impotent, aveugle, rien voir, rien dire, tout endurer pour pas déranger la paix, puis l'harmonie, puis la cordialité. Que de gens ont sombré dans ça parce qu'ils ont essayé de vivre de la charité par abstention. S'abstenir de dire, s'abstenir de faire, s'abstenir de réagir pour pas déplaire, pour pas créer des tensions. Or, la vertu de charité, ce n'est pas une vertu par abstention, c'est une vertu active, c'est une vertu maîtresse, c'est la reine des vertus. Alors, beaucoup de gens, en voulant pratiquer la charité, l'ont fait au détriment de la vérité, au détriment de la liberté. C'était tous des beaux thèmes, ça, mais en pratique, ils avaient été mal expliqués, mal appliqué, mal évalué. Et ont créé beaucoup de dommages. Et aujourd'hui, bien, les gens ont été pris au piège, en otage, sous un joug ou une dépendance, à cause de ça. Quels sont maintenant les facteurs qui, au contraire, peuvent favoriser la conquête et le maintien de la vraie liberté spirituelle face aux autres et en soi. D'abord, et c'est une vérité de la Palisse, mais encore faut-il le dire, il faut croire à la liberté, don de Dieu. C'est inséparable, ça. Parler de la liberté et ne pas mentionner que c'est un don de Dieu, on perd notre point de référence, notre point de repère. Croire que Dieu nous veut ainsi. Il nous donne de l'amour, puis il veut que cet amour circule, puis cet amour lui retourne, mais librement. Dieu ne veut pas d'amour forcé entre nous ou avec lui. Croire que Jésus nous a mérité la grâce pour tous, sans exception et pour tous les temps, pour être capable d'être et de demeurer libre. Et que l'esprit d'amour et de vérité nous inspire constamment dans ce sens. Donc, demander cette grâce et en accueillir la faveur. Deuxièmement, savoir que la liberté vraie, même déjà acquise dans notre vie, est constamment menacée et attaqué au fin fond par Judoka, mais à travers tout et tous. Qu'il faut donc s'appliquer toujours à la restaurer, à la promouvoir, à la valoriser, à la défendre, car elle est menacée inconsciemment ou même avec des bonnes intentions. Et c'est la vengeance de Judoka, de Lucifer et ses satellites, c'est parce qu'eux ont fait un mauvais usage de cette option qu'ils ont eue et qui sont maintenant damnés éternellement et irrémédiablement, qu'ils ne veulent pas que nous autres sur la terre, si on s'est trompé, on puisse se reprendre. Et il a une rage contre la liberté vraie des enfants de Dieu. Il ne veut pas qu'on conforme notre volonté puis notre jugement à la volonté puis au jugement de Dieu. C'est une menace pour lui. Parce que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'à l'heure présente, même tous ceux qui sont dans le péché, dans le crime, dans le terrorisme, qui sont enlisés dans le mal, à cause de la liberté, et la grâce de Dieu aidant, peuvent encore s'en sortir et vont recevoir miséricorde, alors que lui a été condamné irrévocablement. Il n'aime pas ça qu'il y en ait qui reçoivent la miséricorde divine. Alors, je vous dis qu'il patine vite et il patine fort pour compromettre la liberté partout où il peut. Ensuite, proclamer et réclamer et vivre cette option dont j'ai parlé tout à l'heure dans Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, son conjoint, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est radical, mais c'est ça qu'il demande. Vous vous rappelez sans doute l'année dernière ce témoignage d'Hortense Lannoy, notre vice-présidente, qui nous a montré que ce n'était pas tout d'accueillir ce message du Seigneur, mais c'est de le vivre et de le proclamer à tous les siens, que c'est comme ça qu'on entend être libre. Et c'est quand on obéit à ce désir du Seigneur que la grâce fait tous les pontages nécessaires. Quatrièmement, s'entraider communautairement à discerner toute entrave à la vie, à la vraie liberté. Et c'est là que je vois l'importance de ce que j'appelle et que j'expliquerai un bon jour, un synode familial ou entre couples, entre père et mère et chacun des enfants, entre tous les enfants et les parents. On arrive à se parler pour retrouver tout ce qui peut favoriser non seulement la charité, la vérité, mais aussi la liberté. Et trouver ensemble comment en sortir chrétiennement avec amour, joie et paix. Et enfin, refaire de temps en temps. C'est pour ça que vous qui êtes ici aujourd'hui, on vous a donné ces examens de conscience et de confiance par écrit, plus détaillés, les relire de temps en autre, pour être sûr de rester dans ce bon état de liberté. Donc, quand je dis examen de conscience, de ce qui se passe en réalité, et examen de confiance, c'est-à-dire qu'avec lui, on sera toujours de plus en plus libre, car il le veut et il le peut. Huitième point et dernier point dans le plan de ces enseignements, quelques signes qui confirment la présence d'une vraie liberté spirituelle d'enfant de Dieu. Bien, un premier signe, c'est la paix intérieure profonde qu'on éprouve quand on est vraiment libre, autonome devant lui. Et être autonome devant lui ne s'oppose pas à être communautaire avec les autres. Parce que le communautaire vrai doit favoriser la liberté. Alors, on est autonome vis-à-vis lui, communautaire avec les autres, c'est complémentaire. Et donc, cette paix intérieure de laquelle se dégage le calme, la détente, l'assurance, le bonheur, la sérénité, entre autres choses. Un deuxième signe qu'on est libre, c'est le fait de pouvoir entendre, écouter avec intérêt et apprécier même les volontés et les jugements des autres, sans se sentir menacé, sans répercussions négatives au fond de soi. Être capable de voir les autres s'affirmer, puis de nous dire « moi je ne suis pas d'accord avec toi, moi je ferais ceci, cela », et ne pas paniquer, ne pas être désorganisé. Et être capable d'entendre ce que les autres disent, ce qu'ils nous disent être leur volonté, puis leur jugement, et en extraire le bon jus, et en bénéficier. Pas être troublé. Moi, je trouve ça une joie dans la vie. Quand on est capable d'arriver à se dire, bien, ma volonté est conforme à celle de Dieu, puis mon jugement, puis on entend des gens, et c'est surprenant parfois, et c'est décevant d'autres fois, qui nous sortent d'autres choses qui sont pas la volonté ni le jugement de Dieu, mais nous l'affirment avec emphase, on les écoute. On en tire le meilleur, mais on n'est pas désécurisé pour autant. Et troisième signe, ça c'est la fine fleur, la capacité de faire face à la critique, à la diffamation, à la persécution. En sentant sa paix intérieure s'épanouir, croître et se confirmer, au point même de pouvoir la rayonner de plus en plus. Et je n'ai pas besoin de vous dire que ces dernières années ont été, à leur manière, par cette mer debout, ces attaques contre les fondations moi-même, ont été pour moi un signe que cette autonomie spirituelle était en place dans ma vie. Et je vois ce qui se déroule, j'entends ce qui se dit occasionnellement, et cela ne me désécurise pas. Alors, disons en terminant ce point que la vraie liberté, ce n'est pas de faire à sa tête, mais de remonter à la tête qu'il est, au bureau-chef, et y remonter librement. Mes chers amis, les 8 points prévus étant abordés, et avant de tirer la conclusion proprement dite de cet enseignement, j'aimerais intercaler ici une brève exhortation, ou si vous voulez, interpellation fraternelle en Église. Nous invitons tous à multiplier nos efforts pour que se fasse une véritable éducation à la vraie de vraie liberté d'enfant de Dieu. J'en ferai, ça a l'air curieux, mais la priorité de la plus haute priorité pour nos temps actuels. Il y a actuellement dans notre monde une surenchère sans précédent de revendications et d'affirmations au nom de la liberté. Alors qu'il faut avouer à notre courte honte qu'on a perdu plus que jamais son fondement réel, son vrai sens et sa portée bienfaisante. Nous sommes de facto, en fin de ce 20e siècle, de plus en plus asservis, par nous-mêmes d'abord, par le style de vie moderne et par nos frères esclaves comme nous. Jamais la société telle qu'elle est actuellement, ne pourra nous rendre libres ou nous faire redevenir libres, puisque la vraie liberté, nous l'avons vu, ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, dans cette relation entre chaque être et son Créateur. Deuxième réflexion, normalement, l'Église devrait battre la marche dans ce domaine de l'éducation à la vraie liberté spirituelle d'enfant de Dieu. C'est-à-dire dans ce souci de nous amener à accorder partout et toujours le primat du vouloir et du jugement divin sur nos propres volontés et jugements personnels et humains. Mais hélas, il faut bien l'avouer, l'Église ne bat pas encore la marche dans ce domaine. Et même en Église, beaucoup trop tentent encore d'imposer leur vue ou leur jugement de façon à prendre les autres en otage. Très peu et trop peu se donnent le temps, la peine et les moyens pour vraiment discerner et bien prier la volonté et le jugement de Dieu concernant notre petit train-train quotidien. Alors, comment espérer que les fidèles puissent vraiment conformer leur volonté et leur jugement personnel à ceux de Dieu, si, comme c'est le cas, de moins en moins, on leur dit ce que Dieu pense, ce que Dieu veut. On entend de moins en moins le rappel de la volonté du jugement divin, même en Église. Et les jeunes d'aujourd'hui en sont particulièrement sevrés. Comment peut-on espérer retrouver la vraie liberté si on se tait pour nous dire et proclamer ce que Dieu veut et ce que Dieu pense? Le mauvais calcul de la non-liberté nous a conduits à une grave erreur. En voulant bien faire, souvent, on a cru qu'en Église, on pourrait, et c'était le cas jadis, beaucoup mieux retenir les gens si on ne leur accordait pas trop de liberté. On a cru, jadis, que les gens resteraient davantage en Église si on les encadrait bien, si on les entraînait fermement et qu'on décidait le plus possible à leur place. Or, vous le savez comme moi, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Les gens nous ont quittés et ont déserté l'Église à cause précisément d'un manque de vraie liberté spirituelle d'enfant de Dieu. Nos Églises seraient encore pleines si on nous avait aidés, si on avait aidé les gens. Non pas à nous écouter, nous, à nous suivre, nous, à vouloir et à juger comme nous, mais plutôt à apprendre jeunes, à synchroniser le plus parfaitement possible leur volonté, leur jugement en direct avec la volonté et le jugement de Dieu. Le vandalisme post-conciliaire, où on a jeté par-dessus bord un tas de principes, un tas de bonnes choses, est dû en grande part à l'absence au cœur du peuple de Dieu en Église de la vraie liberté spirituelle d'enfant de Dieu. Et c'est souvent en réaction à du rigorisme stérile qui a consciemment ou non étouffé chez les individus et dans les groupes, la découverte et la croissance de cette liberté d'enfant de Dieu. On a été trop souvent traité en enfant d'école qu'on mène à coups de baguette et non en enfant de Dieu, qu'on laisse inspirer par le Seigneur le plus et le plus tôt possible. Et c'est pourquoi, vous le savez comme moi, aux fondations, j'insiste pour un régime de liberté spirituelle, pas à 100%, à 500%. Je veux qu'elle soit non seulement proclamée et encouragée, mais exigée, respectée, accordée, appréciée, évaluée. Aujourd'hui, et j'aurai l'occasion d'en parler dans l'interpellation que je ferai prochainement au mouvement de renouveau spirituel, on a une tendance à la récidive. À mon avis, encore beaucoup trop de directeurs spirituels, de fondateurs de mouvements, de dirigeants de groupes, de responsables de centres dits de renouveau chrétien, risque d'enfermer à nouveau, à toute fin pratique, leurs fidèles dans des petits syndicats de bien-portants spirituels, des serres chaudes spirituelles, des petits cénacles. Et on aura besoin, encore une fois, d'une crise pour que cela saute. On me fait signe qu'il reste à peine quelques minutes et je voudrais conclure, mes chers amis, par la prière, car c'est là qu'il nous faut chercher la lumière et la force. Et je ferai mienne cette prière de Paul pour l'Église, qu'on retrouve au premier chapitre aux Colossiens. Ayant appris leur foi en Jésus-Christ et de quel amour l'Esprit les anime, Paul dit ceci. Voilà pourquoi, de notre côté, du jour où nous l'avons appris, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu que vous ayez pleine connaissance de sa volonté, toute sagesse et pénétration spirituelle, pour que vous meniez une vie digne du Seigneur, recherchant sa totale approbation, donc sa conformité à sa volonté et à son jugement. Vous aurez alors une activité tournée vers le bien et féconde dans tous les domaines, et vous croîtrez par la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tous égards par la vigueur de sa gloire et ainsi amenés à une persévérance et à une patience à toute épreuve. Fin de la citation de l'Épître aux Colossiens. Et je fais mienne également cette prière qu'on retrouve à l'occasion dans la liturgie de l'Église. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Et à mon tour, je dis, Père bien-aimé, multi-merci pour ce précieux don que tu nous as fait, de cette liberté très grande octroyée à tes enfants de la terre. Certes, à certains moments, tu en es la victime affligée, et nous en sommes de ceux qui n'en font pas le meilleur usage. Mais quelle joie pour toi quand tes enfants de la terre savent en user, au contraire, pour ta plus grande gloire et la sanctification de leurs âmes. Mon bon Papa d'amour, par les mérites de ton Fils Jésus et par l'action de votre Esprit d'amour, viens nous libérer tous dans la mesure de nos besoins et désirs respectifs. Viens graver en nous plus profondément que jamais le vrai sens de la liberté spirituelle d'enfant de Dieu et rends-nous toujours de plus en plus aptes à bien nous conformer à ton jugement et à ta volonté divine sur nous. Nous te le demandons pour nous, nous te le demandons pour tous nos frères et sœurs de la terre,